journée de campagne. Bonjour, nouvelle journée dans l'Allier où les habitants viennent d'obtenir enfin le gentilé qui leur revient. On les appelait jusqu'à présent bourbonnais ou bourbonnaises, et bien désormais on les appelle de la même façon, mais cette fois c'est validé officiellement par le conseil départemental. Il y avait une autre possibilité, mais c'était Ella Vérine au féminin, ça passait pas très bien, hormis à l'apéritif. Donc maintenant, bourbonnais. Comme Bourbon, l'Allier est le berceau des barons de Bourbon, des ducs et futurs rois de France. C'est sur ce fonds patrimonial que le département élabore un programme intitulé « Le patrimoine Bourbon en Europe », ainsi qu'une grande exposition qui aura lieu à Moulins l'année prochaine et un colloque scientifique l'année suivante, et enfin la création d'un réseau européen de pays marqués par la dynastie des Bourbons. L'Allier dispose d'un autre patrimoine avec la forêt domaniale de Troncet, 10 000 hectares de feuillus, et tout un symbole d'une marche qui a traversé la France pour mobiliser autour des enjeux que subissent les forêts publiques actuellement. Nous allons en parler avec un des représentants des salariés de l'ONS, Philippe Canal, premier invité, porte-parole intersyndicale des employés. Et nous serons ensuite à Séries avec Léopold Jacquin pour un lieu de vie et de travail innovant et à multiples facettes.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Philippe Canal, bonjour.
Bonjour.
Philippe, vous êtes porte-parole intersyndicale des personnels de l'ONF autour d'une mobilisation, la mobilisation de la marche pour la forêt. Vous êtes évidemment là où il y a un patrimoine forestier dans le Troncet, dans l'Allier, qui est important et qui était le point d'arrivée de cette grande mobilisation. Pourquoi cette mobilisation, Philippe ?
Cette mobilisation vise à alerter les citoyens de deux risques majeurs, la privatisation de la gestion des forêts publiques et aussi l'industrialisation croissante de la forêt, notre bien commun à tous.
Et pourquoi cette industrialisation croissante, exploitation croissante, alors que normalement l'ONF est un tout petit peu le gardien de ce patrimoine ?
Oui, l'ONF, son rôle historique est d'être le gardien de ce patrimoine, mais ses missions sont de plus en plus dévoyées, ses moyens de plus en plus réduits, d'autant plus que vient se greffer une politique de rentabilité immédiate de plus en plus pressante.
Cette marche a été suivie par plusieurs milliers de personnes. Il y a eu environ 3000 journées de marche. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Comment vous avez mobilisé ces personnes ? Et qu'est-ce que vous voulez en faire ressortir ?
Eh bien oui, comme vous dites, c'est près de 3000 personnes qui ont marché pendant 40 jours, pour moitié des forestiers de l'ONF environ, et l'autre moitié des citoyens qui ont répondu à notre appel, ce qui en fait une marche à nos yeux citoyenne, et ils ont tenu à être à nos côtés donc pour marcher, faire quelque chose pour la forêt, et surtout envisager des suites à ce mouvement.
La forêt en France est à 70% privée, à 30% public. Autrement dit, le processus de privatisation est déjà bien engagé.
Aujourd'hui, il s'agit de parler des forêts publiques, pour laquelle est mise en œuvre jusqu'à présent une gestion multifonctionnelle qui respecte à la fois les fonctions environnementales, les fonctions sociales très importantes et aussi la fonction économique. Il n'y a pas de tabou, mais dans une recherche d'équilibre entre les trois. Dans le sens d'une privatisation, il est bien évident que tout ce qui est mission d'intérêt général, forcément, serait laissé à l'abandon.
Comment équilibrer ce besoin aujourd'hui d'utiliser le bois en construction, création de mobilier, en source d'énergie, avec ce patrimoine que l'on veut gérer avec parcimonie, c'est-à-dire avec un équilibre, de façon à ne pas déstructurer les essences et le patrimoine des essences des forêts publiques? Comment atteindre cet équilibre ?
Ce qui peut permettre de retrouver cet équilibre, c'est clairement un mouvement citoyen. On bénéficie tous des services de la forêt et surtout on attend que les générations futures en bénéficient. En contrepartie, il revient à chacun de faire à sa mesure quelque chose donc pour la protéger. Et de ce point de vue-là, il existe un certain nombre d'alternatives et de choses à faire pour tous les citoyens.
Est-ce que cette accélération de l'exploitation de la forêt est liée aussi à une restructuration de l'ONF ? On a parlé de suppression d'emplois, est-ce que vous voulez confirmer ?
Les suppressions d'emplois, oui, l'ONF a perdu 4 emplois sur 10 sur les 30 dernières années. On vient de nous annoncer presque 20% de suppression de postes sur les 5 années qui viennent. Il est bien évident qu'on arrive de moins en moins à remplir nos missions. Il faut vraiment trouver cet équilibre entre exploitation, mais aussi protection.
Est-ce que le cours du bois est avantageux ou désavantageux pour les propriétaires forestiers ?
Y a des hauts et des bas, mais structurellement, les cours du bois sont quand même orientés à la baisse. La récolte en forêt domaniale a augmenté de 30% en 30 ans, mais la recette, elle, a baissé de 30%. Mmh. Et alors que c'est ça qui est censé financer le service public et toutes les missions de protection.
Mmh. Autrement dit, avec la baisse du cours du bois, on veut augmenter l'exploitation de façon à retrouver un résultat positif au niveau financier.
Aujourd'hui, l'augmentation de la récolte, elle provient surtout de la politique en matière de développement des énergies renouvelables. Une fois qu'on a dit ça, tout va bien. Les énergies renouvelables, à plus de 50%, c'est de brûler de la biomasse, hein, et principalement du bois. Et l'Europe et ses États membres, donc la France, ont de tels objectifs, plus 27% à l'horizon 2030, c'est absolument faramineux, qu'il est clairement envisagé d'augmenter fortement la récolte de bois pour satisfaire cette demande en énergie qui va à l'encontre de la transition écologique attendue.
Merci Philippe pour votre témoignage et votre langue qui n'est pas de bois. Ça, c'était facile. Et vous allez trouver, chers amis, le lien avec la marche pour la forêt, avec le manifeste final commun qui va ressortir de ce grand rassemblement qui a eu lieu pendant les mois de septembre et les mois d'octobre. Merci Philippe.
Merci à vous. Bonne journée.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Bézenay, commune de 1000 habitants, jadis 5000 lorsque l'extraction de houille tournait à plein régime. Cette dernière s'est éteinte au début de la Grande Guerre. Les vestiges de cette période sont rares. Bézenay risquait de perdre une activité supplémentaire avec la fermeture annoncée de son épicerie, faute de repreneurs. Les habitants, au début de l'année, ont décidé, ainsi que d'habitants d'autres communes, de maintenir l'activité en la prenant en charge eux-mêmes avec l'association Asso Lus. Ils cherchent des moyens pour prolonger leur activité. Vous allez trouver un lien à nos pages d'émission. Léopold Jacquin, bonjour.
Bonjour.
Vous savez, on pose régulièrement la question, mais aujourd'hui, dans les initiatives, ce sont des personnes plutôt âgées ou plus jeunes ? Il y a de plus en plus de jeunes personnes qui s'investissent, y compris dans le milieu rural, et vous en êtes une belle illustration. Je peux le dire, Léo, vous avez 26 ans, Bonnie, oui. 27, et vous avez été accueilli par les propriétaires d'une ferme à mots pour créer votre lieu de vie et de création artistique, qui s'appelle Polymorph Corp. On est à côté du village de Sérilly, et on est donc dans cette ferme qui s'appelle très exactement la ferme du Rutin.
Oui.
Comment vous en êtes venu d'abord à convaincre les propriétaires d'investir cette ferme ?
Alors, on n'a pas spécialement dû les convaincre, c'est plutôt elles qui nous ont proposé d'investir le lieu et nous ont présenté en fait les opportunités qui le représentaient. Et nous, ça nous a beaucoup séduit et on s'est dit pourquoi pas.
Mais vous n'aviez pas de projet associatif auparavant ?
On avait un projet associatif, mais il a pas mal évolué. En fait, l'idée au début de Polymorph Corp, c'est pour ça que ça s'appelle Polymorph Corp, c'est d'avoir une structure qui regroupe tous nos projets et notamment et aussi ceux des artistes, des personnes qui gravitent autour du projet, qu'on a envie de mettre en valeur.
Et pourquoi, alors il y a un lieu évidemment qui vous était ouvert, mais pourquoi rester dans un milieu rural, éloigné des grands lieux de décision, de la ville, alors que vous aviez peut-être d'autres options potentielles ?
Oui, bien sûr, nous on vient de la ville et en fait on a découvert la campagne à la ferme du Rutin. Nous, le constat qu'on a fait, c'est qu'au début, c'est effectivement un projet qu'on aurait pu faire un peu dans n'importe quelle métropole. Et finalement, on s'est vite rendu compte qu'être à la campagne, ça donne accès à plein d'opportunités qu'on n'a pas en ville, c'est-à-dire beaucoup d'espaces disponibles, s'y rencontrer plein d'autres initiatives qui ont la même envie, la même passion. Et donc, c'est tout ça qui nous a convaincus de rester et aussi d'axer davantage notre projet sur la redynamisation du territoire et l'accueil d'artistes dans cette ferme.
Et vous êtes devenu un professionnel de l'enduit à la chaux ?
Alors, oui, on peut dire ça.
Et ce sont les propriétaires de la ferme qui vous ont accompagné et initié à cette réhabilitation de ce corps de ferme ?
Oui, exactement. Ils nous ont complètement accompagnés du début à la fin et tout appris avec beaucoup de patience. Ça a été une super expérience.
Polymorph, donc avec ses plusieurs formes, va devenir un lieu de travail, de création avec un studio photo, un studio d'enregistrement. Et vous avez créé une première résidence d'artistes venus de différents pays. Et en particulier, vous avez un lien avec l'Afrique du Sud.
Oui, alors c'est vrai que l'idée, c'est à terme d'installer ces ateliers de création et aussi et surtout organiser des résidences d'artistes qui sont en fait suivis à chaque fois d'événements qui mettent en valeur les productions des artistes. Donc c'est ce qu'on a déjà fait une première fois au mois de juin, où on a accueilli 4 artistes de nationalités différentes. C'est vrai qu'on a un lien avec l'Afrique du Sud, puisque Bonnie habitait auparavant à Cape Town. Ouais. Elle a là-bas lancé un premier concept qui consistait à organiser des événements pour exposer des jeunes artistes sud-africains qui n'avaient pas forcément accès aux lieux de diffusion classiques.
Mmh. Dites, il y a quand même un enjeu financier dans l'établissement de ces correspondances, l'accueil, l'aménagement technique que vous allez faire de ces bâtiments. Oui. Comment vous allez procéder ?
Alors, notre idée, c'est d'abord de continuer à organiser des événements qui nous permettent de gagner en visibilité aussi et surtout fédérer d'autres initiatives locales, puisque en fait en grattant un petit peu on se dit qu'en fait dans l'Allier il y a beaucoup d'initiatives intéressantes et beaucoup d'autres porteurs de projets qui sont pour la plupart d'ailleurs jeunes, qui ont vraiment envie de faire bouger les choses, donc on a envie d'associer à nos projets. Et également sur les plans du financement, ce qu'on cherche à faire avec ces événements, c'est aussi récolter un peu de fonds. À part ça, on propose aussi des prestations en communication à d'autres structures, que ce soit collectivités locales ou associations, voire petites entreprises, notamment production vidéo, édition, qui peuvent aussi intéresser.
Belle réalisation, parce que sur la page Facebook de Polymorph Corp, vous pouvez voir, chers amis, les photos des travaux engagés depuis septembre de l'année dernière. Le résultat est superbe. Le lieu va s'améliorer techniquement avec tout ce qui est prévu. Et puis, il fait aussi du lien entre la ville et la campagne à travers l'action culturelle. Et ça, c'est très chouette. Vous allez trouver à notre page des mission, le lien et le contact avec Léopold et Bonnie, cofondateur de l'association. Merci Léo.
Merci.